Cette nuit-là, je suis de quart jusqu'à 4 heures. Je ne dors pas avant. À minuit 20, le centre de coordination et de sauvetage de Rome nous appelle. Ils ont reçu la position d'un canot à 15 milles des côtes libyennes. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est proche, très proche, des eaux territoriales, qui sont à 12 milles. Un pétrolier est dérouté pour participer aux recherches. Mon canot est à l'eau, je m'approche, les gens ne sont pas trop agités. Milena est en charge de la communication. La plupart sont francophones. Ils sont réceptifs. Axel ramène des gilets de sauvetage avec son semi-rigide. Milena en prend un, commence la démonstration de leur utilisation. Je leur dis que tout va bien se passer. Soudain, j'aperçois une grosse vedette grise qui nous fonce dessus. Je suis ébloui. Je distingue une dizaine de Libyens en treillis, certains avec des armes. La vedette freine à quelques mètres de nous. Elle va d'avant en arrière, comme pour nous repousser. J'ai les mains en l'air. J'utilise les trois mots d'arabe que je connais. Salam, la mouchkila. Bonjour, pas de problème. Mais l'homme qui semble diriger le bateau, un jeune en t-shirt blanc, n'est pas très réceptif. Par de grands gestes, il m'intime de m'écarter. Un homme monte à bord de l'embarcation des migrants, frappe des personnes au hasard et se dirige vers le moteur. Un gars saute dans l'eau, sans gilet. Je hurle qu'il ne doit pas faire ça. J'ai peur que les Libyens lui tirent dessus. Il nage vers nous. Je lui mime de s'accrocher du côté opposé à celui des Libyens. On le hisse à bord et on le cache sous les gilets de sauvetage. D'autres sautent, mais nagent d'eux-mêmes jusqu'au Sea-Watch 2. Les Libyens sont menaçants, je ne peux plus faire grand-chose, et les priorités me reviennent. Moi, mon équipage, puis les naufragés. J'écoute John communiquer avec les Italiens, à la radio.
« Nous avons besoin d'aide, des gens sont à l'eau. »
Un bateau des gardes-côtes est en route.
Les Libyens sont incontrôlables, ils mettent en péril les naufragés.
Les Libyens sont sur zone ?
Affirmatif, une vedette militaire.
Vous avez ordre de dégager la zone. Ceci est un ordre, capitaine. Dégagez la zone. Notre navire ne viendra pas.
La révolution !
Alors, chers amis,
j'ai connu la ferveur de ce stade-là où tout le monde était debout, tout le monde était. Il y avait autant de monde, voire plus de monde que maintenant.
Merguez, cacahuètes, pralines.
Quand j'étais en primaire, on nous interdisait de parler notre langue.
Il ne faut pas se décourager, il faut aussi agir parce qu'on trouve que des choses sont intolérables.
T'es sérieuse, on va vraiment enregistrer ?
Et après, on a eu une petite douche de lacrymo pour leur rafraîchissement.
Goût
poivre.
On n'ouvre pas une usine en France pour en fermer une ailleurs.
On attend goût curry pour les végés, quoi.
Une émission d'actu des luttes.
Salut tout le monde, c'est Dupin et des Parpaings. On se retrouve aujourd'hui comme tous les mois au studio de Radio U avec deux invités qui vont nous parler de la mer, plus exactement de celles et ceux qui la traversent pour gagner les côtes italiennes, grecques ou d'autres pays d'Europe.
Dupin et des Parpaings, c'est une émission qui essaie de suivre les luttes en Bretagne et ailleurs. Les luttes des gens qui se dressent et s'organisent contre toutes les oppressions, toutes les dominations.
Contre l'accaparement des terres et l'extractivisme.
Contre le fascisme.
Contre toutes les violences commises par le capitalisme.
Avec le pain, on peut boulanger collectivement, façonner, faire tourner les fours, on peut partager, on peut se nourrir.
Avec les parpaings, on peut construire des maisons, des lieux d'accueil et d'échange, mais aussi des murs, des usines, des prisons et autres lieux d'enfermement, de concentration, d'isolement, voire de torture.
Sur les routes migratoires, on les croise, ces lieux. On pense aux centres de rétention administrative, on pense aux zones d'attente, on pense aux prisons libyennes où transitent des exilés d'Afrique en partance vers l'Europe.
On a parlé, dans une précédente émission, de l'accueil des exilés en Europe et à Brest en particulier, avec des collectifs qui soutiennent, hébergent, accompagnent ces personnes.
Aujourd'hui, on ouvre à fond la focale et on part beaucoup plus loin pour parler des routes migratoires avec deux collectifs qui opèrent dans le sauvetage en mer, mais pas que.
On enregistre cette émission en juin 2026 et l'actualité, c'est la mise en application du pacte européen sur l'asile et l'immigration, un arsenal de lois visant à restreindre, empêcher, réprimer toujours plus les personnes exilées sur le sol européen.
On va parler de tout ça avec nos deux invités, Marie, qui nous parlera de Sea-Watch et de Louise Michel, pardon, et Sabrina pour Alarm Phone et Louise Michel également. Salut à vous.
Salut.
Bonjour.
Salut, salut.
Et de notre côté aujourd'hui, il y a Lucie.
Romain, et au plateau.
Ouais, et Valère en régie.
Alors, on va commencer avec toi, Marie. Est-ce que tu peux nous présenter les collectifs dont tu fais partie ?
Oui, donc je fais partie de l'ONG de sauvetage en Méditerranée Sea-Watch, une ONG qui a été créée en 2015. Et je suis aussi active auprès de l'ONG Louise Michel, qui opère un bateau qui porte le même nom. L'apparition de ces ONG de sauvetage en mer, donc ce sont des ONG civiles qui ont commencé leur action pour pallier à la défaillance des États de porter secours aux personnes qui sont en détresse en mer. Voilà, donc l'objectif est donc d'éviter le plus possible les morts en mer et de pallier aux disparitions en mer. Et la manière dont elles opèrent, du coup, c'est de naviguer pour les plus gros bateaux au large des côtes libyennes et tunisiennes, de patrouiller ou d'aller à la rencontre de cas de détresse desquels on est informé pour effectuer ces sauvetages et essayer de ramener les personnes en Italie de manière sûre.
Avec Sea-Watch comme Louise Michel ?
Avec Sea-Watch comme avec Louise Michel, oui. Donc la manière d'opérer dépend un peu des bateaux. Sea-Watch a actuellement deux bateaux, un très gros bateau, le Sea-Watch 5, qui part d'Italie et qui patrouille du coup véritablement au large des côtes libyennes, et un autre bateau qui est beaucoup plus petit, Aurora, qui fonctionne un peu différemment, qui est basé à Lampedusa et qui la plupart du temps sort quand il est informé d'un cas de détresse actuelle, mais pas que, quelquefois on va patrouiller aussi. Et Louise Michel, c'est un peu un bateau intermédiaire en termes de taille, qui va plutôt patrouiller aussi au large des côtes.
Et toi, quel rôle t'as joué dans ces opérations-là ?
Donc les rôles que je peux avoir à bord, c'est ça s'appelle officière de protection. Donc le rôle principal, c'est d'informer les personnes, enfin de recenser les vulnérabilités des personnes qui sont à bord, donc les vulnérabilités juridiques autres que médicales, de les informer sur leurs droits avant le débarquement en Italie et d'essayer de faire du lien avec des ONG qui seraient à terre au moment du débarquement. Et actuellement, je travaille, je recrute différents rôles sur ces bateaux-là, donc celui d'officière de protection, mais aussi de médiatrice culturelle, parce que sur chaque bateau, on essaye d'avoir des personnes qui parlent le plus possible la langue des personnes secourues pour pouvoir leur apporter de l'information le mieux possible.
Mmh. Et toi, Sabrina, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le réseau Alarm Phone dont tu fais partie ?
Oui, Alarm Phone est un réseau qui est né de la fermeture des frontières européennes et des résistances contre les morts aux frontières. Et en fait, c'est un réseau transnational de solidarité sur les routes de migration, depuis les pays de départ jusqu'aux pays d'arrivée en passant par les zones de transit. Et du coup, Alarm Phone est né un peu de toute cette histoire, de toute cette historique et cette politique de fermeture de frontières et de création des visas à la fin des guerres de décolonisation. Et du coup, ça a été la rencontre entre des collectifs à la fois en Afrique et des collectifs européens qui, à force d'œuvrer à documenter, recenser les personnes décédés en mer pour aider les familles à retrouver leurs proches. En fait, c'est dit à un moment donné que c'était pas suffisant et qu'il y avait trop de... Il y avait malgré tout toujours trop de décès en mer parce qu'il y avait aussi tout un travail de sensibilisation auprès des politiques qui étaient faits. Et en fait, en 2013, il y a eu deux naufrages coup sur coup qui ont coûté la vie à plus de 300 personnes et un autre de plus de 35 personnes, qui ont finalisé un peu cette décision d'y aller, en lien avec la rencontre avec deux personnes en Italie, l'abbé Moussa Erezaï et Nawal Soufi. En fait, c'est des personnes qui, en Italie, faisaient déjà le travail d'alarmphone en recevant sur leur téléphone personnel des appels de plein de gens en détresse en mer. Et du coup, ces personnes relayaient les appels de détresse à la marine italienne. Et donc, dans la rencontre avec ces personnes, il leur a été proposé d'installer une permanence téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de prendre leur relais, quoi, en fait, avec eux. Et du coup, aujourd'hui, Alarmphone, c'est cette permanence téléphonique qui couvre toute la Méditerranée depuis la route entre la Turquie et la Grèce, la Méditerranée centrale entre Libye, Tunisie, Algérie, Italie, la Méditerranée de l'Ouest, Algérie, Maroc vers l'Espagne, puis aussi la route atlantique, du coup, départ Sénégal, Gambie, Mauritanie, et puis Darla, La Youn, du coup, vers les îles Canaries. Et enfin, ça couvre aussi la route de la Manche entre la France et l'Angleterre. Du coup, ça, c'est pour la permanence téléphonique. Sur les zones de départ, il y a un gros travail de sensibilisation au danger de la traversée qui est réalisé par les membres sur place. Et de sensibilisation sur les zones de départ pour les gens qui veulent partir, mais aussi auprès des familles et de solidarité avec les familles qui ont perdu des proches. Puis un travail de documentation sur ce qu'on observe, ce dont on est témoin pour garder des traces et aussi sensibiliser l'opinion publique et interpeller les autorités politiques, quoi, pour faire changer ça. Et enfin, il y a tout un travail de suivi et de soutien, comme je disais, un peu aux familles, mais là, dans la recherche de leurs proches disparus aux frontières, en fait, et de savoir ce qu'il est devenu des bateaux. Parce qu'en fait, énormément de personnes disparaissent en mer, mais aussi énormément de personnes disparaissent dans les prisons en Europe ou sur les routes européennes, pas uniquement en mer.
Alarmphone, hello.
Hello, my friend.
This is
Watchman Alarmphone.
Hello, my friend. This is Alarmphone.
How are you, my friend?
I hear you.
Can you hear me?
Hello, my friend.
Okay, can you give me your GPS position?
Chronique amère.
Chronique
amère.
Pour comprendre ce qui se joue à travers les actions de vos collectifs, on s'est dit qu'on pourrait faire un zoom sur trois routes migratoires que vous connaissez, l'une et l'autre. La première, sans doute la plus connue, la plus médiatisée, c'est celle qui passe par la Libye et les côtes italiennes.
Au tout début de l'émission, on a donc entendu la lecture d'un récit d'Antonin Richard, extrait du livre « Ce matin, la mer est calme », qui décrit un sauvetage au large des côtes libyennes sur le Sea-Watch 2 en 2015. Depuis, l'association a eu d'autres bateaux et on est au Sea-Watch 5 actuellement. Marie, est-ce que tu veux bien nous décrire un peu où on en est aujourd'hui sur ce genre d'opération? Est-ce qu'on retrouve les mêmes conditions?
Les conditions ont beaucoup changé, évolué. Ce qui n'a pas changé, c'est que les gardes-côtes libyens interviennent toujours... sont toujours intervenus très souvent et de manière violente. Et là, ces dernières années, ça s'accentue beaucoup plus avec différents bateaux de ces gardes-côtes qui peuvent suivre les ONG de sauvetage, les traquer, les intimider et vraiment interférer au moment des opérations de sauvetage, donc de manière beaucoup plus... systématique, presque je dirais qu'avant, de véritablement y interférer et mettre en danger une opération de sauvetage. Et ce qui a aussi beaucoup changé, c'est la manière dont l'Italie gère et traite les ONG de sauvetage en Méditerranée. Par exemple, enfin, un des plus gros contrastes que moi j'ai pu observer entre le moment où j'ai commencé il y a 6 ans et maintenant, c'est qu'avant on était... En fait, ce qui se passe quand il y a un sauvetage, c'est qu'on doit en informer évidemment les autorités italiennes et c'est sous coordination en soi des Italiens et c'est aux autorités italiennes de nous assigner un port de débarquement. Et avant, ça prenait des semaines et c'était justement un des outils pour rendre toutes ces opérations très compliquées, de faire attendre les bateaux pendant des semaines au large des côtes avant de leur autoriser l'entrée. Et maintenant, ça se voit plus trop. Les débarquements se font de manière beaucoup plus... ou l'assignation des ports se fait de manière beaucoup plus rapide. Les ports qui sont assignés, notamment aux gros bateaux comme le Sea-Watch 5, sont des ports qui sont de plus en plus loin, de plus en plus au nord de l'Italie. Donc pour pouvoir arriver au port, ça prend 4 ou 5 jours, et pour pouvoir redescendre en zone opérationnelle, du coup, de nouveau. Donc en fait, ça fait vraiment perdre des jours d'opération, et ça coûte très cher. Ce qu'on voit aussi depuis 3-4 ans, avec le décret Piantedosi, c'est une détention, des détentions beaucoup plus systématiques aussi.
Tu peux nous expliquer ce que...
Oui, pardon. un décret qui a été passé en Italie en janvier 2022 qui a durci beaucoup plus justement ces conditions, la manière dont sont gérées juridiquement les manières d'opérer des ONG de sauvetage en Méditerranée. Donc il y a cette histoire d'assigner des ports de sécurité de plus en plus loin. Il y a la règle en théorie de pouvoir effectuer qu'un seul sauvetage. Qu'un seul sauvetage et qu'on doive ensuite se diriger vers le nord le risque en enfreignant ces lois-là, c'est la détention du bateau pendant 30 puis 60 jours, des sommes d'argent faramineuses et le risque de confiscation du bateau à terme.
Wow. Arrivé sur les côtes italiennes, ensuite, quelles sont les conditions d'accueil? Qu'est-ce que tu peux nous raconter, ce qui se passe pour les gens qui sont débarqués en Italie?
C'est tout l'objet des informations qu'on essaye de faire passer aux personnes sur les bateaux pour qu'elles soient un peu armées juridiquement avant de débarquer en Italie, parce que c'est vraiment un parcours du combattant qui continue. Donc les personnes, une fois qu'elles sont qu'elles arrivent en Italie, donc au débarquement, on peut s'imaginer beaucoup de police, beaucoup d'officiers de Frontex, dont on va parler plus tard, certaines ONG quand on a de la chance, et la Croix-Rouge. Et en fait, donc les personnes sont reçues par tout ce cordon de personnes. Et aussi des médecins du ministère de la Santé italien, et sont reçus en fait de manière plus ou moins hostile. Donc ce qui arrive souvent, c'est que ces médecins du ministère de l'Intérieur viennent par exemple sur le bateau et font une évaluation médicale très rapide de chaque personne, mais de manière indigne, enfin demander aux personnes de soulever leur t-shirt, d'ouvrir leur bouche, de regarder... on a vu aussi des femmes qui devaient enlever leur voile justement pour, à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier moment. Et après, elles passent par toute une batterie de questions pour décliner leur identité, leur raison d'arriver en Italie. Elles doivent donner leurs empreintes pour être enregistrées dans le fichier Eurodac. Qui compliquera du coup les demandes d'asile un peu partout en Europe. On en parlera plus longuement plus tard, mais l'accès à la demande d'asile est aussi très très compliqué. En gros, elles ont vraiment que quelques jours pour prouver qu'elles sont assez vulnérables, misérables et en danger pour avoir peut-être éventuellement le droit de rester en Europe.
Depuis les années 90, se développe un espace européen dit de liberté, sécurité et justice qui repose en réalité sur un projet politique d'insécurisation, avec une mise en danger croissante des personnes qui sont en mouvement. Des politiques de militarisation et de surveillance se renforcent pour servir ce narratif raciste de l'insécurité.
La sécurisation des frontières européennes englobe tout un système. Des accords bilatéraux de réadmission, la réduction du nombre de visas accordés, des politiques de fichage déguisées en aide au développement, etc.
Dans ce rapport, nous nous concentrons sur la matérialisation des frontières par les technologies utilisées pour repérer, traquer, cibler, blesser, voire tuer les personnes en mouvement. Certaines de ces technologies rendent la frontière visible. Véhicules, drones, armes, radars, barbelés coupants par exemple.
L'amalgame entre guerre, terrorisme et migration permet aux États d'utiliser des institutions et des outils conçus pour la guerre contre les personnes en mobilité. L'augmentation énorme du financement de Frontex par les États membres de l'Union européenne depuis sa création en 2004 a grandement développé sa capacité à soutenir la militarisation des frontières. En 2015, Frontex recevait 142 millions d'euros. En 2019, 333 millions, soit plus du double. Et en 2025, 1124 millions.
Là, par exemple, à la frontière Pologne-Biélorussie, un mur qui a été récemment construit, qui envoie des... Quand on s'approche, il y a des dispositifs qui font que des micros se déclenchent, écrits dans toutes les langues. Partez, c'est très dangereux, vous ne serez pas bien accueillis. À la frontière gréco-turque, il y a des canons anti-sons, qui sont des trucs a priori qui dissuadent et qui sont tellement douloureux pour l'oreille qu'on ne passe pas. Et ça, c'est la course en avant, disons, de l'industrie de l'armement, de l'industrie de la surveillance. Donc, il y a des intérêts derrière ça. Mais au départ, je pense vraiment que c'est l'utilisation par des politiques de l'agitation mensongère, en tout cas sur l'idée d'invasion, de remplacement, de cette idée d'une espèce de masse de migrants qui menaçait l'Europe. Et donc après, voilà, je disais, il y a d'un côté les gouvernements nationaux qui usent de ça. La Hongrie d'Orban, par exemple, en exemple parfait, mais on voit très bien qu'en France, en Espagne, en Grèce, c'est aussi instrumentalisé. Deuxièmement, bah oui, évidemment, un écosystème de l'armement, des technologies de surveillance. Il y a des lobbies aussi qui, à Bruxelles ou dans les États, se battent pour construire la forteresse. Et puis ensuite, il y a l'Europe qui chapeaute ça.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de Chronique amère, le podcast d'Alarmphone, suivi d'un extrait d'entretien avec Emilien Bernard, l'auteur de Forteresse Europe, par nos amis de Micro Rebelles à Lens. Marie, Sabrina, est-ce que vous voulez réagir à ce qu'on vient d'entendre ?
Eh ben, moi, ça me fait écho, en fait, à cette discussion qu'on a en ce moment sur aussi comment changer le discours médiatique sur la question des personnes migrantes et des migrations, et comment aujourd'hui, en fait... Ce qui choque, c'est l'arrivée d'un bateau à Lampedusa et non plus 500 personnes qui périssent en mer suite à un naufrage. Et aussi, dans ce même discours, tout cet inversement, en fait, du discours qui dit que, en fait, ce ne sont plus les personnes qui viennent chercher, la sécurité qu'il faut protéger, mais c'est plutôt nos pays qu'il faut protéger car ces personnes sont des dangers. En fait, dans le droit d'asile, en fait, et le droit pour les personnes réfugiées, il y a le droit de se déplacer sans visa, enfin de manière, comme on peut dire, illégale, quand on cherche refuge. Et en fait, le droit d'asile, les pays sont signataires pour protéger les personnes en danger. Voilà. Et ça me fait écho aussi à une dernière chose que j'ai lue cette semaine, qui est une citation de Refugees in Libya que j'ai envie de vous partager, à la fin d'un documentaire qui est reconstruit avec Forensic en 3D sur un ordi, les centres de détention en Libye, à partir de témoignages de personnes concernées. Et ce documentaire se termine en disant « La solution aux migrants n'est pas de protéger les frontières, la solution c'est d'écouter les migrants ». La solution aux migrants, c'est le migrant.
Peut-être on peut réagir sur l'idée de la sécurité, de la militarisation, etc. Et en fait, on a l'impression que plus on augmente la sécurité, et finalement, plus on augmente le nombre de morts.
Oui, parce qu'on, enfin, il y a des recherches et même, enfin, l'observation comme ça de l'humanité finalement qui est fondée sur la migration depuis toujours, et que, enfin, il y a ce phénomène très clair que plus on sécurise les frontières, plus les personnes empruntent des voies dangereuses pour être en mouvement quand même, et que c'est pas, enfin, que la sécurisation, la militarisation et toutes les choses horribles qu'on vient d'entendre enlève pas la détermination des personnes à bouger, la détermination ou même l'obligation. Et ça me fait, enfin, y a souvent une anecdote moi qui me revient en tête, qui m'avait beaucoup marqué, qui était sur un des bateaux de sauvetage, justement, où on avait la chance d'avoir une sage-femme à bord. Et parmi les personnes secourues, il y avait des femmes. Et leur première demande, quand ils ont vu qu'il y avait une sage-femme à bord, c'était de se faire retirer l'implant qu'elles avaient dans le bras et qu'elles s'étaient fait mettre dans leur pays d'origine en prévision de la trajectoire, de la traversée, en prévision des violences sexuelles et des viols qu'elles allaient subir. Donc on n'est pas sur une ça répond pas à la militarisation concrète de laquelle on vient de parler, mais en fait ça, je trouve que ça souligne vraiment l'exemple que peu importe les risques, les personnes partent quand même et sont tout à fait au courant des risques que ça entraîne, et du coup on n'a pas le choix.
On voulait peut-être faire un petit point sur la criminalisation aussi des capitaines, parce que ça c'est un vrai problème. Donc dans l'arsenal juridique, il y a aussi ça.
Oui, quand on parle de criminalisation de capitaines, du coup on parle de la chasse aux personnes qui seraient capitaines des embarcations en détresse, ou des personnes qui organiseraient ou qui faciliteraient la traversée. Et du coup moi je peux plutôt parler pour l'Italie, mais en tout cas c'est les personnes qui sont suspectées d'avoir conduit le bateau et qui sont inculpées comme telles en cours des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à 30 ans ou peut-être même jusqu'à perpétuité. Et ce sont des manières de mener ces enquêtes ou ces investigations-là qui sont complètement aberrante et du coup très 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 systématique aussi. Dès l'arrivée, on parlait du coup du débarquement en Italie tout à l'heure, parmi la police et parmi Frontex, il y a des personnes, enfin il y a Frontex a des médiateurs et des médiatrices culturelles qui peuvent apparaître très accueillants, très chaleureux et soustraire comme ça des informations aux personnes sur la traversée.
Pourquoi les peines sont aussi spectaculaire comme ça, 30 ans, ça paraît complètement fou.
Trafic d'êtres humains. En fait, oui. c'est des accusations qui sont assez délirantes. Et en fait, les personnes sont aussi accusées d'homicide involontaire ou volontaire, ça j'ai pas le détail, mais s'il y a des personnes décédées durant la traversée. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui peuvent cumuler jusqu'à 100 ans de peine.
Oui. Donc, pour ça, et enfin, ce truc de trafic. Trafic d'êtres humains, je pense que c'est vraiment de combattre le trafic d'êtres humains, je crois que c'est vraiment le parapluie de l'arsenal européen de contrôle aux frontières
Ça et la lutte contre le terrorisme, quoi.
Oui.
Ça va de pair, j'imagine.
Mais du coup, oui, c'est qui contribue complètement à cette construction de la personne migrante comme danger, comme grand risque.
Vous êtes toujours sur Radio U, sur le 101.1 à Brest, ou à l'écoute d'une rediff sur votre radio locale préférée. Et on est toujours dans l'émission Du pain et des parpaings qui navigue sur les eaux de la Méditerranée, toujours avec celles et ceux qui luttent.
On continue l'exploration des terres et des mers en lutte, et on aimerait parler maintenant d'une autre route de migration, celle qui vient plutôt de l'Asie et qui passe par la Méditerranée, mais entre la Turquie et la Grèce. Sabrina, est-ce que tu pourrais nous dire quelle différence tu vois entre cette route migratoire et celle qu'on vient d'aborder ?
Eh bien, il y a d'abord une différence géographique, c'est-à-dire que entre la Turquie et la Grèce, la frontière maritime. Alors, il y a une frontière maritime et une frontière terrestre, qui est aussi plutôt une rivière avec plein d'îlets qui est très dangereuse, où il y a beaucoup de personnes qui disparaissent. Mais la frontière maritime, qui est celle où il y a le plus de traversées, en fait, est très petite, ce qui fait que de la Turquie, on peut voir les îles grecques. Et voir, on peut nager sur certaines, pour rejoindre certaines îles. Et avec la deuxième spécificité qui n'est pas des moindres, c'est que les personnes arrivent sur des îles. Et qu'avant, en fait, l'accord entre la Turquie et l'Europe, les gens passaient par les îles pour rejoindre le continent, continuaient par la route des Balkans et arrivaient en Europe de l'Ouest. Quand ils ont décidé de fermer la route des Balkans, ils ont créé des hotspots où les gens se sont retrouvés coincés sur les îles, à la fois dans des campements fermés et des campements qui deviennent des centres de rétention quand les personnes se voient refuser le droit d'asile en Grèce.
Ben, du coup, ça nous donne l'occasion de parler de ces lois qui apparaissent en ce moment, qui sont mises en application. Donc là, c'est le pacte sur l'asile et l'immigration de l'Union européenne qui est vraiment l'actualité parce que ça fait depuis 2020 que ça se prépare. Il y a eu un vote en 2024 et là, récemment, donc un dernier vote où on a entendu les députés européens gueuler « Send them back ».
C'est Hub de retour.
C'est une mesure portée par l'extrême droite avec le soutien de la droite.
Création de Hub de retour.
On va créer des camps à l'étranger, dans des pays où on n'a absolument aucun contrôle.
La création de centres de rétention hors de l'Union européenne.
L'Union des droites au Parlement européen peut enfin crier victoire. Le règlement retour vient d'être entériné après un ultime vote des eurodéputés aujourd'hui.
The vote is closed.
on vient d'entendre parler des hubs. Est-ce que vous pensez que ça va être mis en place, sachant que pour le moment, c'est chaotique au Rwanda, en Albanie, plusieurs exemples où ça a été tenté de mettre en place et qui ne fonctionnent pas pour différentes raisons?
La mise en place de ces hubs ou centres, ou en tout cas délocalisation des procédures de demande d'asile et ou d'expulsion, ça paraît être un avenir probable, mais encore assez loin. Donc, comme tu dis, l'Italie a essayé de mettre ça en place en Albanie, l'Angleterre au Rwanda, et ça n'a pas fonctionné. Mais par contre, ce qui est déjà très réel et mis en application et qu'on voit véritablement là depuis le 12 juin ou même le 11 juin au soir au moment des débarquements en Italie, c'est des procédures d'enregistrement du coup des personnes qui ont complètement changé. Donc en fait, ce que vient dire ce pacte européen, c'est que tous les pays européens doivent traiter les arrivées et les demandes d'asile de la même manière et doivent appliquer des procédures identiques à un niveau européen. Et ce qui rentre en compte là, c'est la fiction de non-entrée, enfin qui considère du coup qu'une personne est certes physiquement présente sur le territoire européen, mais légalement pas du tout. Et là où on voit que ça s'applique du coup concrètement déjà en Italie, c'est une séparation très rapide et très distincte entre les personnes venant de pays d'origine dit sûr, parce que l'Italie et l'Europe du coup considère que y a pas de demande d'asile sérieuse qui peut venir de ces pays-là, et les pays d'origine qui sont pas sûrs. Et je pense qu'on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails de ces aberrations juridiques, mais ce qui se passe du coup, c'est que il y a toute une batterie de policiers, d'officiers de Frontex, de personnes du ministère de l'Intérieur italien, et une absence totale des ONG pour identifier et comprendre de manière très très rapide le profil des personnes, et que les personnes arrivées en Italie aussi ont du coup maintenant une obligation de collaborer. Et donc là, ce que ça veut dire, c'est que là où avant, quand elles étaient questionnées par la police sur les conditions de la traversée, elles pouvaient dire qu'elles n'avaient pas envie de répondre ou qu'elles ne voulaient pas répondre sans avocat, etc. Et maintenant, elles sont obligées de répondre, parce que si elles ne répondent pas, si elles refusent de répondre, ça peut avoir des conséquences sur leur procédure d'asile. Ou sur leur procédure en général. Donc là, c'est de manière extrêmement simplifiée et sur un processus qu'on a nous-mêmes encore beaucoup de mal à comprendre, mais en tout cas, cette criminalisation devient. Le risque de criminalisation devient encore beaucoup plus important.
Ouais, moi, je veux bien continuer un peu sur le processus de criminalisation, parce que c'est quand même quelque chose qui est vraiment pas du tout dans les radars des médias, et ça enferme énormément de personnes. Les personnes criminalisées représentent la deuxième population carcérale en Grèce aujourd'hui, avec énormément de jeunes Soudanais qui sont arrivés de la Libye sur la route vers la Crète. Et en fait, quel que soit, que ce soit la Grèce, l'Italie, l'Angleterre, je veux moins, mais en tout cas aussi l'Espagne, c'est toujours un peu le même schéma, arrestation arbitraire. Sous dénonciation des personnes à bord, mais des dénonciations avec des aveux qui sont arrachés aux autres personnes à bord en leur disant « si vous nous dites, on vous donnera des papiers », ce qui est complètement faux. Alors ce qui est rassurant à ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne rentrent pas dans ce jeu-là et qui ne dénoncent pas. Mais il y a aussi des manières pernicieuses, comme tu disais Marie, de récolter les informations. Et après, les gens... ils se retrouvent dans un commissariat où ils doivent signer des PV qui ne sont pas traduits. et se retrouvent enfermés sans l'assistance d'un avocat ou avec un avocat, une avocate commis d'office qui n'y connaît rien en droit des étrangers et encore moins sur ce processus de criminalisation. Et s'il n'y a pas de soutien juridique, les personnes peuvent prendre, comme tu disais tout à l'heure, énormément d'heures de, et de jours et de, d'années, de, pas d'heures, d'années d'enfermement. Quoi.
Sous le motif de, traite, de trafic d'êtres humains ici aussi.
Oui, facilitation au passage, trafic d'êtres humains, homicide s'il y a eu des personnes décédées à bord. Voilà.
Est-ce que vous, ou des collectifs ou des ONG que vous connaissez, avez une intervention juridique pour aider ces personnes?
Eh ben, il y a le réseau Captain Support qui est notamment né d'un rapport qui recensait le nombre de personnes emprisonnées en Italie qui étaient là depuis des années sans procès et sans aucun soutien juridique.
Et des capitaines, parce que un capitaine c'est quelqu'un juste qui conduit un bateau, même un petit bateau.
Ah oui, mais c'est construit de toutes pièces en fait. Les preuves, en fait, souvent quand les personnes ont un soutien juridique, il est très rare que les personnes soient condamnées derrière. Parce qu'en fait, quand l'avocate fait bien son travail et connaît en fait le processus, du coup, c'est facile à démonter. Et y a énormément de gens qui disparaissent en fait dans les prisons européennes, et notamment suite à la criminalisation en fait, parce que les personnes aussi n'ont plus leur téléphone, n'arrivent plus à joindre leur famille. Je pense à Latifa qui fait partie de la commémoration, du réseau Commémoration, qui recherche son frère depuis des dizaines d'années. Le dernier contact qu'elle a eu avec son frère, il était en prison en Italie. Et ça fait plus de 12 ans qu'elle a plus eu de contact.
Marie, tout à l'heure, tu nous as parlé des critères de vulnérabilité. C'est quelque chose qui est utilisé justement pour démonter un peu ces accusations juridiques. Donc toi, c'est quelque chose que tu as eu l'occasion d'utiliser?
Oui, du coup, c'est pas directement lié à ce processus de criminalisation, mais en tout cas, dans tout ce processus, oui, d'arrivée et d'enregistrement en Italie et de choix, de quelle procédure va s'appliquer à telle personne en arrivant en Italie. Mmh. Et du coup, oui, ça fait partie des choses qu'on essaye d'expliquer aux personnes avant qu'on arrive en Italie et ce qu'on essaye d'identifier à bord. Donc, en fait, l'Italie à une liste établie légalement de critères de vulnérabilité, enfin de ce qui rend une personne vulnérable, et parmi ça des personnes qui sont inexpulsables, par exemple les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les personnes LGBTQI+, les personnes qui sont victimes de torture, et il y en a encore quelques autres. Après, dans les faits, on voit que c'est pas véritablement appliqué, parce que les mineurs non accompagnés doivent, comme en France et partout, prouver qu'ils sont mineurs et non accompagnés. Et pour ce qui est des victimes de torture, on sait que la quasi-totalité des personnes qui sont passées par la Libye ont été victimes de torture. Enfin, si l'Italie et l'Europe appliquaient vraiment ce critère-là, il n'y aurait pas de... Tout le monde aurait des papiers.
Ici, il y a au moins 7000 migrants sur le campement de la Lande. Et au-delà même du chiffre, cette situation n'est pas acceptable. Dès lors, nos objectifs sont clairs. Garantir la sécurité des Calaisiens. Maintenir l'ordre public... et assurer aux migrants, aux réfugiés, des conditions dignes, parce que nous sommes la France.
Ils sont descendus de leur voiture quand je marchais dans la rue et ils m'ont aspergé le visage de gaz.
C'est là un beau visage de la France que vous avez montré.
On a franchi une nouvelle étape en termes d'escalade dans ce qui concerne le harcèlement vis-à-vis des exilés et l'intimidation et la pression sur les soutiens.
Nous devons ensuite... garantir l'étanchéité effective et durable de la frontière franco-britannique.
Je suis en mesure de vous annoncer que nous allons investir 17 millions de livres supplémentaires pour des infrastructures prioritaires de sécurité à Calais pour soutenir le travail de la police française.
Enfin, nous devons démanteler complètement, définitivement, le campement de la Lande.
On m'a dit, le gouvernement m'a dit que la jungle allait être détruite, que cela n'allait pas être bon pour moi, que je n'avais aucune chance d'aller en Angleterre. Certains veulent aller en Angleterre, mais moi, je veux juste un chez moi.
Il faudra s'y prendre avec méthode et en même temps avec détermination.
On voit une cinquantaine de policiers ou de gendarmes mobiles arriver au petit matin, se mettre en rang d'oignon et commencer à rentrer dans un bois pour en sortir les personnes des tentes et les expulser de ce terrain.
Il faudra également avoir le sens de l'humain.
Yolaine de Salam vient de se voir interdire de donner de l'eau, des bouteilles d'eau. A priori, le sous-préfet aurait décidé que ce midi, il n'y aurait pas de distribution alimentaire malgré l'ordonnance du tribunal administratif. Donc voilà, il y a combien ? Une, deux, trois quarts de CRS là, pour empêcher 200 personnes vivant à la rue de recevoir un repas, il fait chaud, enfin voilà.
Nous aurons aussi à mener une politique d'éloignement des migrants qui sont en situation irrégulière et qui ne relèvent pas de l'asile. C'est la vérité que l'on doit dire. Pour que ceux qui sont des réfugiés puissent être accueillis dans des conditions conformes aux valeurs de la France.
C'est la vidéo qui relance la polémique sur le sort des migrants à Calais. Maltraitance, interpellation musclée, voire passage à tabac.
C'est là un beau visage de la France que vous avez montré.
Ce démantèlement répond en effet, et je le réaffirme ici à Calais, à une urgence humanitaire. Le camp de la Lande, et chacun doit bien le comprendre, est pour les migrants une impasse.
De faire peur aussi aux personnes exilées et de faire passer le message que cette frontière n'est ni bienveillante, ni accueillante, ni douce.
Entre Grande-Synthe et Calais, il y a eu beaucoup d'étapes et différentes formes de camps, plus ou moins officiels, plus ou moins précaires, depuis les années 90.
En septembre 2016, la jungle est démantelée et les gens sont en partie envoyés un peu partout en France. Beaucoup se retrouvent à Paris, Porte de la Chapelle. Et de nombreux petits camps se reforment à Calais. Et depuis, c'est une répétition sans fin de démantèlement avec violence policière et recomposition des camps.
Toi, Marie, tu étais à Calais en 2016. Comment tu es arrivée là-bas et à quelles actions tu as pris part ?
Oui, je suis arrivée à Calais en janvier 2016 dans le cadre de mon stage de fin d'études. Et j'ai atterri là, pas par hasard, mais un peu après une grosse douche froide, parce que dans le cadre d'un cours qu'on avait à l'université sur qui s'appelait les réfugiés et migrations, j'ai fait mes études à Lille et on a fait une... Faut vraiment s'imaginer ça comme une sortie scolaire à Calais pour aller voir... le camp, c'est véridique que ce que je vais raconter, il y avait des personnes d'association, alors je ne sais plus quelle association, qui nous attendaient à l'entrée du camp, qui nous ont distribué des bonnets avec des pommes dedans et qui nous donnaient comme instruction qu'ils allaient nous guider à travers le camp et que s'il y avait des personnes qui nous embêtaient un peu trop, on pouvait leur donner des pommes. Donc ça faisait vraiment visite de zoo et...
Safari humain.
Comment ?
Safari humain.
Oui, voilà. Et... C'était complètement lunaire d'être... ça avait ni queue ni tête et c'était profondément choquant. Notre posture était choquante. Je crois que j'ai trouvé ça plus choquant que la découverte du camp de Calais. Et du coup, au lieu de chercher des stages de fin d'études dans des grosses institutions internationales très très loin, je me suis dit qu'il y avait des choses à faire à Calais. Et du coup, j'ai eu un stage au Secours catholique à Calais en aidant les personnes dans leur démarche de demande d'asile. Et j'ai fini par y rester plusieurs années. Donc j'ai vu aussi j'étais là au moment du démantèlement de la jungle, et c'est, Je me souviens très bien que les premiers jours, tout se passait de manière plus ou moins ordonnée. Tous les médias étaient là et c'était calme et à peu près propre. Et en fait, au fur et à mesure, les personnes qui ne voulaient pas partir, ça devenait de plus en plus violent, avec de moins en moins de présence médiatique. Et oui, et des choses... ça devenait de plus en plus sombre et violent, justement. Et depuis, c'est exactement comme vous l'avez décrit tout à l'heure. Donc, c'est la présence de personnes migrantes est toujours là à Calais. Et c'est ça ressemble vraiment à des petits camps qui s'établissent un peu partout en ville et qui se font démanteler plusieurs fois par semaine. Pendant les derniers mois où j'y étais, c'était vraiment très... vraiment systématique, c'était vraiment un jeu du chat et de la souris. Enfin, les personnes établissaient un petit campement. La police leur laissait à peu près 48 heures avant de démanteler, d'arrêter 2-3 personnes au passage, etc. Enfin, on avait à ce moment-là, je crois, connaissance de 8 camps sur Calais. Et c'était... une fois par semaine, chaque camp était... été démantelé.
Et pour ce qui est des traversées, jusqu'à 2018, c'était surtout dans des camions. Les traversées se faisaient en se cachant dans les camions. Et donc, les camions prenaient le tunnel sous la Manche. Et puis, il y a eu de plus en plus d'embarcations. Et je sais que maintenant, Alarme Fun opère aussi sur cette zone-là. Peut-être tu peux nous en parler, Sabrina.
Oui, Alarme Fun opère sur la route de la Manche depuis 2022. Avec, en fait, ce qui est intéressant sur la route de la Manche et la particularité par rapport aux autres routes, c'est que la Manche est quand même c'est une autoroute de gros bateaux, de ferries et de bateaux de marchandises géants. Et du coup, les gardes-côtes français, en accord avec les gardes-côtes anglais, en fait, accompagnent. Quand ils sont alertés ou quand ils voient un bateau en mer, accompagnent les bateaux jusqu'à la frontière maritime avec la Grande-Bretagne, où là, en fait, c'est la Grande-Bretagne qui prend le relais. Et où du coup, parce que la Grande-Bretagne refuse toute arrivée autonome sur son territoire et veut garder le contrôle sur toute arrivée de bateaux. Avec, je crois que la moyenne en ce moment, c'est un bateau sur 7 où il y a des personnes qui sont criminalisées pour conducteurs de bateaux. Et du coup, ce qui se passe aussi depuis, c'est que forcément, l'Angleterre veut... Enfin, voilà, les politiques européennes et anglaises par rapport à l'immigration et de lutte contre l'immigration font que la répression, elle se fait surtout sur les zones de départ, donc en France, avec l'intervention de plus en plus fréquente et massive de CRS sur les plages, qui vont interpeller les gens, empêcher les gens de monter dans les bateaux, crever les bateaux à coups de couteau, ou attaquer les gens à coups de gaz lacrymogène, ce qui est hyper dangereux. En fait, ça crée des mouvements de panique sur les moments de départ, ça fait que les gens sont moins sereins à organiser leur départ, ne peuvent plus gonfler les bateaux et préparer le bateau de manière aussi sécure qu'avant. Donc, ça fait qu'il y a des gens qui meurent étouffés sur le moment du départ parce que le sol ne tient pas bien, parce qu'il y a plus de monde sur les bateaux qu'avant, parce qu'il y a moins de départs. Et aussi, il y a ce phénomène qui se développe du coup de taxi-boat, c'est-à-dire que les bateaux partent de plages un peu plus haut, en tout cas plus loin, pour pouvoir partir de manière plus sereine, et passe devant les plages où les gens attendent dans l'eau. Faut imaginer des familles attendent avec de l'eau jusqu'aux hanches. Et quand les bateaux arrivent, les gens nagent, courent pour monter dans le bateau, ce qui crée aussi des effets, des fois, de foule et de surcharge des bateaux. Et avec ça, les CRS qui sont derrière à lancer des gaz lacrymogènes. Voilà. Et donc, en fait, la mortalité sur cette route, elle est liée, si on revient à cette question de la militarisation, mais en tout cas de la répression sur les zones de départ, quoi.
C'est le moment de parler actu et agenda des luttes. Sabrina, Marie, est-ce que vous avez des infos à nous partager ?
Eh bien, oui, une info à partager pour cet été. Le collectif auto-organisé qui s'appelle Refugees in Libya est invité au Festival de cinéma de Douarnenez pour participer à une table ronde sur la
tu
question...
Tu peux nous redire les dates du Festival de Douarnenez?
Ouais, du 15 au 22 août. Et du coup, il y aura une table ronde sur la question des politiques d'enfermement des personnes migrantes avec la participation d'un membre d'Alarm Phone Maroc pour parler de la solidarité et de autour de l'enfermement et aussi de l'impact de l'enfermement sur les corps, et deux membres de Refugees in Libya et aussi Emmanuel Mbolela qui est le créateur de la première association auto-organisée de personnes migrantes au Maroc il y a 21 ans pour parler de quelle résistance des personnes concernées. Et suite à, il y aura un deuxième événement avec Refugees in Libya, toujours dans le cadre du festival de cinéma, qui est la sortie de leur livre Book of Shame en français, le lundi 17 août au hall de Douarnenez. Et du coup, ce sera l'occasion de présenter tout le travail de Refugees in Libya et la sortie de ce livre.
Sur lequel vous êtes vous-même un peu partie prenante, le bouquin Book of Shame.
On essaye de le traduire.
Il sera prêt à temps.
Il sera prêt à temps, oui.
Ok. Est-ce qu'on a d'autres actus?
D'actu perpétuelle, enfin, il y a plein de...
d'annonces à passer.
Oui, il y a plein de réseaux et de collectifs qui ont toujours besoin de soutien. Et là, on a pu parler pas mal de criminalisation, justement, et le réseau, le collectif Captain Support a toujours besoin de soutien et de visibilisation et est facilement trouvable sur Internet et sur les réseaux. Et sinon, pour se tenir informé, y a la newsletter ECHOES, donc E-C-H-O-E-S, du civil MRCC, qu'on peut aussi facilement trouver sur Internet.
Cool, cool, cool. Merci. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission.
Merci à vous.
On termine avec des annonces. On est en train d'entendre l'instru du morceau Le cuir usé d'une valise du groupe La Rumeur. Pendant l'émission, on a écouté aussi un extrait de Ce matin, l'Américain d'Antonin Richard, enregistré en 2022 pour une émission de la radio éphémère Abyss FM à Brest. Et le morceau au milieu de l'émission aussi, c'était Soulaf, artiste soudanaise. La chanson s'appelle Naada et parle de l'exil et est écrite dans la tradition de la poésie soufie.
On vous donne rendez-vous après l'été pour une nouvelle saison de Du pain et des parpaings. On a déjà plein de projets d'émissions et d'événements pour l'automne. En tout cas, courage et force à toutes et tous.
Ouais. Salut tout le monde.
Salut tout le monde.
Salut.
Salut.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise sous un drap de couleur fade, contrastant ses souvenirs. Tarbé d'un embarcadère ensoleillé au départ, une arrivée sur un ponton terne et un visage hilar, celui d'un contremaître de l'encre, un tampon à la main, frappant le flanc de cette valise retenant la douleur. Ses visages s'engouffrant dans un train, direction l'usine de camion pour un bien dur labeur. Les sirènes n'ont pas de voix mélodieuse, leurs appels stridents en force à 5, leurs espoirs tels des moqueuses. Ces vestiges de période dure qu'elle garde en elle, ces séquelles marquent son cuir et le morcel.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, entreposée sous la poussière terre d'une vieille remise. Légère surcrue, l'on balafrait de part en part. Une étiquette fanée rappelle son premier départ. Et janvier 53, la tatouée d'un plein cap sur le froid. Au fond de ce bagage, pas d'invitation au voyage, mais la plaine de Rélizène qui pleure en fils parti. Gagner le droit de ne plus errer affamé. Au fond de ce bagage, la coupure tachée d'un journal où s'étale le résumé du procès des agitateurs d'une usine embrasée. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, autrefois pleine d'espoir, maintenant pleine de poussière. Si tu savais son histoire, partie de la soufrière, en portant quelques vêtements chauds pour cette terre de convoitise. La haine et la neige comme découverte, et les visages se glacent face aux spécimens d'outre-mer. En cette pleine période d'exode qui accompagne...